20h à Paris et à Rome, 18h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et avant de retrouver notre nouvelle édition spéciale dans 10 minutes, le grand journal du soir, il est présenté ce soir par Simon Bourtembour. Bonsoir Simon.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une, donc, ces milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre actuellement pour une première prière en hommage au pape François.
Un moment de recueillement qui a commencé il y a une demi-heure et qui doit se poursuivre avec la mise en bière du souverain pontife dans les prochaines minutes. Un témoignage de fidèles dès le début de cette édition. Nous serons aussi à Buenos Aires, la capitale argentine qui a vu naître le pape François et qui pleure sa disparition à l'âge de 88 ans. Les hommages, nous le verrons, sont unanimes dans le monde catholique comme dans le monde musulman. Dans cette édition également, reportage à Mayotte. 4 mois après le passage dévastateur du cyclone Chido, Emmanuel Macron aux côtés des Mahorais. Le président français est venu présenter un plan de 3 milliards d'euros pour refonder l'archipel.
S'unisce la voce dei nostri fratelli, delle nostre sorelle sparse nel mondo. È tutto il gregge di Cristo, buon pastore, che prega per Papa Francesco.
Voilà, en ambiance, il y a quelques minutes hein, sur la place Saint-Pierre de Rome où se déroule actuellement, Simon Bourtembour, une première prière publique pour le pape François.
Oui, le moment de recueillement a commencé il y a de ça une demi-heure. Ce soir, l'émotion est évidemment immense au Vatican et sur la place Saint-Pierre où des milliers de fidèles se sont réunis. Ils ont convergé devant la basilique depuis ce matin et l'annonce de la mort du souverain pontife. Le reportage d'Éric Sénanc.
Dans le long cortège de pèlerins et touristes qui convergent vers la basilique Saint-Pierre, de l'insouciance est sur les visages en ce week-end pascal ensoleillé, mais aussi de la stupéfaction. Le pape François est mort et nombre de fidèles se sentent orphelins de Papa Francesco. Giuliana vit à Latina, au sud de Rome, et voulait absolument se rapprocher du Vatican ce lundi.
On a un peu le cœur brisé et beaucoup de chagrin. C'était un pape vraiment bon, l'un de nous. Il nous a tellement transmis. C'était un pape vraiment humain. Il était toujours parmi les gens et le fait de rester humble comme il l'a été est un grand enseignement. J'espère que cet enseignement sera reconnu par tous.
Plusieurs fidèles viennent allumer des cierges dans une église située à quelques dizaines de mètres de la place Saint-Pierre. Alessandro, lui, est venu en famille passer ce lundi de Pâques au plus près du Vatican. Il reste marqué par l'héritage de François qui a donné une image plus accessible de l'église.
I tempi sono particolari, sono avute molte nuvole all'orizzonte.
Les temps sont difficiles, il y a beaucoup de nuages à l'horizon, mais lui, il a voulu donner une nouvelle image de l'Église. Une Église qu'on pourrait résumer par plus simple. C'est un pape qui a vraiment eu de l'influence sur chacun de nous, simples croyants.
Credenti, diciamo così, semplici.
9 jours de deuil ont donc officiellement débuté au Vatican, comme le veut la tradition. Le transfert du corps de François dans la basilique vaticane pourrait avoir lieu dès mercredi matin pour que les fidèles viennent se recueillir sur sa dépouille. Éric Sénanc, Rome, RFI.
Voilà, Rome, où évidemment l'émotion est toute particulière, mais elle l'est également à Buenos Aires, la capitale argentine, qui a vu naître le pape François.
Oui, dès l'aube de la journée, les premières bougies ont scintillé donc dans la capitale argentine, et ce, en hommage du pontife. Les fidèles ont afflué toute la matinée à la cathédrale de Buenos Aires pour prier le repos de pape argentin. Théo Conscience a assisté aux premières cérémonies.
À la sortie de la capitale métropolitaine de Buenos Aires ce matin, Claudia, retraitée, peine à retenir ses larmes.
C'était le pape de tout le monde, c'était le pape des pauvres. Il avait une vie simple, il allait lui-même acheter son journal, réparer sa montre. Il avait un cœur énorme.
La simplicité que Jorge Bergoglio a su conserver quand il est devenu pape a rapproché de nombreux jeunes de l'église, selon Sergio, qui a encore les yeux rouges à la sortie de la messe.
Ce n'était pas un pape lointain, un pape de Rome, c'était le pape d'ici, de Buenos Aires. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions.
Premier pape latino-américain et premier pape argentin de l'histoire, François était aussi un motif de fierté et une source d'inspiration pour beaucoup de ses compatriotes, comme Diego, étudiant de 27 ans.
Pour moi, c'est l'Argentin le plus important de l'histoire, pour tout ce qu'il a réussi à faire et ce qu'il représente. Et pour avoir réussi à raviver chez les Argentins l'empathie et l'humilité qui nous a longtemps caractérisés et que nous avons perdu ces derniers temps.
Malgré ses différends avec le pape François, le président argentin Javier Milei a pris la dimension de l'importance qu'il avait pour ses compatriotes en déclarant un deuil national de 7 jours. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Et le corps de François est en ce moment même mis en bière dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe où vivait le pape depuis son élection en 2013. Viendra après la constatation officielle du décès et on apprend à l'instant que le pape François est mort d'un AVC. Lui qui était souffrant et qui avait connu une pneumonie des deux poumons ces dernières semaines. Les catholiques du monde entier pleurent donc évidemment la disparition du pape. Ce soir aux États-Unis, les drapeaux sont en berne dans tous les bâtiments publics. Une initiative de Donald Trump en l'hommage au pontife que le président américain décrit comme un homme bon qui aimait le monde. Un grand homme nous a quittés, s'émeut de son côté à la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni. Il était un défenseur du dialogue entre les religions et les cultures, se souvient le président libanais Joseph Aoun, sentiment partagé dans le monde arabe à part les présidents égyptiens, marocains ou encore le roi de Jordanie. Le premier ministre espagnol et le président français ont eux souligné l'engagement du pape François envers les plus vulnérables.
Emmanuel Macron évidemment qui lui aussi a réagi au décès de François et il s'exprimait depuis Mayotte.
Ouais, le président français à 8000 km de Paris aux côtés des Mahorais, 4 mois après le passage dévastateur du cyclone Chido. Emmanuel Macron a annoncé un plan de refondation du département français. 3 milliards d'euros seront déployés sur ces 6 prochaines années pour reconstruire Mayotte. Un défi immense que le président français a exposé aux Mahorais venus à sa rencontre. Reportage Valérie Gass.
À Mayotte, les accueils se font toujours en musique. Dans la rue principale de Tsingoni, Emmanuel Macron serre des mains, embrasse les gens, en reconnaît certains, engage le dialogue.
Madame, pour le coup, est un exemple de dame qui a été assurée. Elle est assurée.
Ça fait 4 mois que j'attends. Et à chaque fois qu'on appelle, on nous dit les mêmes mots. On a beaucoup de dossiers. Oui, mais nous, on vit où en attendant ?
L'ambiance est bon enfant, pas d'altercation comme lorsqu'il était venu en décembre et que les gens criaient leur détresse. Mais en marge de la déambulation du président, les langues se délient. Un habitant de Tsingoni évoque sa déception, lui qui attend toujours des aides.
Beaucoup, ils ont pas eu. Même les, tout ce qui est dans les coups, surtout les locaux. Les Mahorais, ils n'ont pas eu. C'était juste les autres qui habitent dans les bidonvilles.
Une infirmière se désespère.
L'urgence est que tous les professionnels de santé, ils sont en train de quitter l'île.
Emmanuel Macron est conscient que les attentes sont grandes.
Je suis là pour faire le constat de ce qui est bien fait, ce qui n'est pas assez bien fait, pour donner un coup d'accélérateur.
Un coup d'accélérateur, c'est ce qu'attend la députée mahoraise Estelle Youssoufa.
Pour le moment, le gouvernement Bayrou n'a ni dégagé le budget, ni fini l'estimation pour la reconstruction de Mayotte. Donc on prend le boss du boss qui vient sur le terrain et je l'espère bougera le gouvernement.
Sur place, l'impatience est grande de voir les choses avancer. Valérie Gass, Mayotte, RFI.
Emmanuel Macron s'est lui envolé pour la Réunion, autre département français d'outre-mer touché par une épidémie de chikungunya. Le président français poursuivra ensuite son déplacement à Madagascar et sur l'île Maurice. Empêcher Haïti de plonger dans un chaos total, l'ONU alerte la communauté internationale alors que la violence des gangs continue de se propager dans de nouvelles zones du pays. Le point de non-retour est proche, prévient la représentante spéciale des Nations Unies en Haïti.
On poursuit l'actualité hors de la mort du pape François. Évidemment, en Israël, le bras de fer se poursuit, Simon Bourtembourg, entre Benjamin Netanyahou et le chef du Sinn Bet.
Le limogeage du chef de service de sécurité intérieure avait provoqué un tollé dans une grande partie de l'opinion israélienne. Eh bien, aujourd'hui, Ronen Bar contre-attaque devant la Cour suprême israélienne. Le premier ministre israélien est directement mis en cause par le chef du Sinn Bet. Un document dans lequel Ronen Bar décrit ses relations avec Benjamin Netanyahou a été remis au juge chargé de statuer sur la légalité de son limogeage. Michel Paul.
C'est une déclaration écrite sous serment qui est présentée à la cour par Ronen Bar. Il accuse notamment Benjamin Netanyahou d'avoir exigé de lui une loyauté complète, notamment en cas de crise constitutionnelle, autrement dit, obéir au Premier ministre et non pas aux décisions du tribunal. Le directeur du Shin Bet affirme également qu'à plusieurs reprises, le chef du gouvernement avait exigé qu'il utilise les méthodes de l'agence de renseignement à l'encontre des dirigeants du mouvement de protestation, notamment pour trouver la source de financement des manifestations. Netanyahou aurait également cherché à obtenir sa signature sur un document le dispensant pour des raisons de sécurité de comparaître devant les juges dans le cadre de son procès pour fraude et corruption. Et c'est à la suite du refus de Ronen Bar que Benjamin Netanyahou avait affirmé ne plus avoir confiance en lui. Pour le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, cela prouve que Benjamin Netanyahou présente un réel danger pour la sécurité du pays. Le bureau du Premier ministre, pour sa part, affirme que le document est un tissu de mensonges et que Ronen Bar apporte lui-même la preuve de son échec. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
21h10 à Jérusalem, 1h de moins à Rome et à Paris, c'est la fin de ce journal. La suite d'RFI Soir est tout de suite une édition spéciale consacrée donc à la mort du pape François.
Eh bien, c'était le grand journal du soir, écourté exceptionnellement ce soir. Merci Simon Bourtembourg. Et rebonsoir. Bienvenue si vous nous rejoignez, nouvelle édition spéciale donc sur l'antenne de RFI suite à la mort du pape François à l'âge de 88 ans et en ce lundi de Pâques si important pour les catholiques du monde entier. Évidemment, l'annonce du décès de François a une résonance planétaire aujourd'hui. Les réactions tout au long de ce lundi ont afflué. On va remonter le fil de la journée pendant cette édition spéciale. On va vous en faire revivre les temps forts. On va revenir évidemment sur le pontificat de ce pape réformateur. C'est ainsi qu'il est très souvent décrit. Trop agitateur selon certains catholiques traditionnels qui ont voulu freiner son action. Et on va se pencher bien sûr sur ce qui peut se passer désormais, ce qui va se passer désormais jusqu'à la nomination d'un futur pape. Merci d'être là, c'est parti.
Édition spéciale sur RFI.
Et pour commencer, bien direction le siège de l'Église catholique dans le monde, Rome, où se trouve déjà l'envoyé spécial de RFI, Daniel Vallaud. Daniel, dès l'annonce de la mort de François, les fidèles ont afflué sur la fameuse place Saint-Pierre et le nombre de ces fidèles ne cesse de grossir, d'autant que, et on le voit sur nos caméras de télévision, et vous allez nous faire vivre, et bien depuis plusieurs dizaines de minutes, une première prière publique à l'intention de François se déroule place Saint-Pierre.
Oui, alors la nuit commence à tomber sur la place Saint-Pierre et la prière vient tout juste de s'achever. Une prière très calme avec quelques notes d'orgue et des chants très courts. Une cérémonie extrêmement simple en latin et en italien, ce qui correspond sans doute à ce qu'aurait souhaité le pape François. Des chaises avaient été installées sur une partie de la place, mais la plupart des personnes ont suivi la prière debout ou assis sur les marches de la colonnade majestueuse qui entoure cette place. Une prière suivie par plusieurs milliers de personnes dans une ambiance bien sûr empreinte de recueillement et de gravité, dans l'assistance des familles, des religieux également, mais aussi des fidèles de toute nationalité, car de nombreuses personnes venues hier pour apercevoir le pape François étaient restées à Rome pour ce lundi de Pâques et ont tenu bien sûr à revenir aujourd'hui rendre hommage au souverain pontife des fidèles sous le choc, même si tous ceux qui l'avaient vu hier avaient été frappés par son état de faiblesse. Certains avaient voulu voir dans cette apparition publique le signe d'une amélioration, d'autres s'attendaient au pire. Tous, en tout cas, saluent aujourd'hui la mémoire d'un pape qu'ils aimaient profondément, un pape proche de nous et proche du peuple. Ce sont d'ailleurs les mots qui reviennent le plus souvent lorsque l'on évoque le bilan de son pontificat. Le pape François laisse le souvenir ici d'un souverain pontife populaire, très respecté et qui aura tenté, m'a dit l'un de ses fidèles, de réformer l'Église catholique, de la rendre plus ouverte, plus attentive aux autres.
Le pontificat qu'on va tenter, merci beaucoup Daniel Vallaud, depuis Rome, de tracer dans les grandes lignes avec Véronique Guémard qui m'a rejoint en studio. Bonsoir Véronique.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Présentatrice évidemment de l'émission Religion du Monde. Avant d'évoquer ce pontificat, retour sur ce qui s'est passé évidemment ces dernières heures, ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que l'annonce de la mort de François a été soudaine, elle a pris finalement tout le monde de court. On savait que sa santé était encore fragile, on ne le pensait pas à ce point en danger, près d'un mois, rappelons-le, après sa sortie de l'hôpital.
Oui, effectivement, puisque le 14 février dernier, il avait été hospitalisé donc à l'hôpital Gemelli de Rome. Les médecins avaient diagnostiqué une pneumonie bilatérale, une infection respiratoire donc qui affecte les deux poumons. Il était sorti 38 jours plus tard, mais avec pour consigne un repos absolu. Le médecin du pape avait confié d'ailleurs qu'il avait failli mourir par deux fois. Il n'avait plus de souffle, mais ils avaient tout de même décidé de prendre quelques bains de foule. Il avait prononcé quelques mots, effectivement très essoufflés à l'occasion de Pâques, mais déjà très jeune en fait, à 21 ans, suite à une grave pneumonie. Il avait subi une ablation du lobe supérieur d'un poumon, ce qui avait rendu son système immunitaire très fragile. Il avait été hospitalisé aussi deux fois en 2023, une fois pour une opération de l'abdomen, en 2021 pour une opération du côlon. Il avait dû annuler des voyages, notamment au Liban par exemple, en 2022. Il souffrait aussi des genoux, de la hanche. Il était en fauteuil roulant depuis 2022. Cela ne l'avait pas empêché de se rendre en RDC, au Soudan du Sud, en Asie du Sud-Est et en Océanie en septembre dernier. Mais très affaibli, le pape François effectivement était apparu encore en public dans sa papa mobile place Saint-Pierre dimanche de Pâques, hier.
On
il est mort effectivement le lendemain, aujourd'hui, à l'âge de 88 ans. Il ne voulait pas démissionner, il disait « on gouverne avec la tête et pas avec les genoux ». Il aura donc tenu jusqu'au bout, jusqu'au lendemain de Pâques.
Et ben on va écouter ces quelques mots justement, c'est très court, hein, prononcé juste avant un bain de foule à bord de la Papa Mobile, prononcé par François hier, donc dimanche de Pâques en public.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Voilà, en français, joyeuse Pâques, François qui, après ces mots, a délégué la lecture de son texte. On a entendu les applaudissements des fidèles de la place Saint-Pierre, fidèles. On l'a vécu avec Daniel Valo, notre envoyé spécial à Rome, qui afflue ce soir au terme d'une journée qui aura donc débuté par cette annonce qui a ébranlé la planète. C'est peu avant 8h, temps universel, que celui qui va désormais bien gérer les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau pape a pris la parole. C'est l'Irlando-américain Kevin Farrell, depuis le Vatican, pour annoncer la mort du pape. Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit, puis on retrouve notre invité juste après.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore.
Chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer le décès de notre Saint-Père François. Ce matin, à 7h35, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Il a dédié toute sa vie au service du Seigneur et de son Église.
È stato dedicato al servizio del Signore e della sua Chiesa.
Voilà, François décédé à l'âge de 88 ans, un peu plus de 12 ans après avoir été nommé pape. Son pontificat a débuté en mars 2013. Christiane Rancé est avec nous. On va vous retrouver dans un instant, Christiane Rancé. Est-ce qu'on peut d'abord, en quelques mots, Véronique Guémard, retracer les grandes lignes de ce pontificat?
Oui, alors effectivement, le pape François, donc qui était à la tête d'1,4 milliard de fidèles, rappelons-le, aura marqué son pontificat. D'abord, premier pape du Sud, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio, premier jésuite, mettait la dignité humaine au centre. Il était d'ailleurs surnommé le pape des périphéries et s'est d'ailleurs rendu dans des périphéries du monde et des hommes, auprès des plus pauvres, des migrants notamment, comme sa famille d'ailleurs, qui était une famille de migrants. Ouais. Le pape, qui se voulait donc réformateur, vous le disiez, il a essayé de décentraliser l'Église en donnant plus de place aux évêques des différentes régions, tout en tentant de ressouder l'Église aussi pour lui redonner un nouvel élan face à la montée des églises évangéliques, à l'essoufflement du catholicisme dans certaines régions. On se souvient du synode sur la synodalité, cette grande assemblée qui a réuni des évêques du monde entier, mais aussi des femmes et des laïcs qu'il avait intégrés. Il avait cette volonté d'ouvrir l'Église. L'Église est ouverte à tous, disait-il. Et on se souvient aussi de cette déclaration en décembre 2023 autorisant des bénédictions pour des couples homosexuels. Ce tollé aussi que cela avait provoqué auprès des églises en Afrique notamment. Et puis concernant les abus sexuels dans l'Église, il y a eu une prise de conscience, davantage d'écoute des victimes, mais le bilan est très mitigé avec peu de mesures effectives. Et puis enfin, il avait voulu réformer la curie, hein, ce lourd organe qui fait fonctionner l'Église catholique, l'assainir sur ses finances. Mais il se battait aussi contre le cléricalisme. Hein, c'était le faste qu'il trouvait outrancier dans l'Église catholique. Il restera aussi son engagement en faveur de l'écologie, avec son encyclique Laudato aussi en 2015. Et puis le dialogue interreligieux qui était très important pour lui en 2019. Notamment, il avait signé avec le grand imam d'Al-Azhar le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune.
Bonsoir Christiane Rancé.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes écrivain, auteur de la biographie Un pape parmi les hommes. Véronique Guémard a évoqué ce pape auprès des plus défavorisés. On se souvient de son premier déplacement, peu de temps après avoir été élu pape en 2013 à Lampedusa. Il est évidemment meurtri par le problème des migrants. Est-ce que ça restera l'image la plus importante, ce pape des pauvres, ce pape auprès des plus défavorisés?
Oui, c'était sa volonté d'ailleurs. C'est un pape qui s'est inscrit dès le début de sa pastorale comme simple prêtre, ensuite comme archevêque de Buenos Aires, comme un particulièrement sensible à la question des exclus. Jeune séminariste au Chili, il avait découvert les premières favelas. Il avait été absolument sidéré que des gens pauvres s'excluent eux-mêmes et s'enferment dans des espèces de ghettos tellement ils se sentaient rejetés par la société. Et à partir de là, il a construit toute sa pastorale en Argentine sur ce thème. Archevêque de Buenos Aires, il avait d'ailleurs hérissé le poil des politiques et des économistes lors de la première messe donnée en tant qu'archevêque à la cathédrale de Buenos Aires, où il y avait tout le gratin du pays. On s'attendait à une simple homélie. Il les a assaisonnés de critiques très très vives sur le sort réservé au peuple. C'est un pape qui a été formé, et un prêtre et un archevêque formé par l'image, par le péronisme, par l'image d'Eva Perón, qui avait porté toute son attention sur ce qu'elle appelait les sans-chemises. Lui, ça a été les cartoneros, c'est-à-dire tous ces gens qui étaient obligés d'aller fouiller dans les poubelles pour se nourrir. Quand il y a eu la grande crise argentine en 2001, moi j'étais en Argentine à ce moment-là, c'est comme ça que j'ai découvert son existence et sa pastorale. Il a organisé les nuits de la charité, il a exigé que tous les acteurs politiques et économiques se remettent autour d'une table, et tout le monde, est, même ses pires ennemis, ont reconnu qu'il avait sauvé le pays du chaos. Et quand il a été élu pape, il est resté, je dirais, sur cette trajectoire d'une vision extrêmement sombre de l'extrême richesse de certains et de l'extrême pauvreté des autres, chose qu'il a vu s'aggraver en Afrique et qu'il a vu s'aggraver dans les pays du tiers-monde. Donc il a été très proche de la parole évangélique et très proche de cette attention aux plus pauvres, aux exclus, dans lesquels évidemment il a fait rentrer les migrants.
Véronique Guémard évoquait les réformes que François a lancées, notamment la lutte contre les abus sexuels, cette tolérance zéro. Mais alors, il y a eu beaucoup d'autres réformes qui ont été lancées par François, mais qui n'ont pas abouti, la bénédiction des couples homosexuels, l'ordination d'hommes mariés. Est-ce qu'il restera comme ce pape qui a fait bouger les choses, mais sans les faire aboutir?
Je pense que c'est un pape qui n'est pas justement aussi réformateur qu'on a bien voulu le dire. Il a toujours voulu sauver l'Église et protéger l'Église. C'est un pape qui est très très soucieux et très fidèle à l'image ecclésiastique. Il a voulu réformer la curie, il n'a pas voulu réformer l'Église. Et là, c'est là qu'il a commencé à y avoir des malentendus. On lui a reproché de ne pas aller assez loin. Oui, il était pour la bénédiction des couples homosexuels, mais à condition que ça soit en dehors de toute liturgie. Il n'a pas engagé de réforme pour les divorcés remariés. Il leur a dit que bon, ils pouvaient avoir une bénédiction, mais là encore en dehors à la discrétion des prêtres et en dehors de toute messe officielle. Donc en laissant une fenêtre ouverte, il a toujours craint que l'Église ne soit trop secouée. Il a vu ce que ça pouvait être encore une fois en Amérique du Sud, avec la théologie de la libération. Donc il n'était pas évidemment pour une église proche du pouvoir, il n'a pas du tout été dans cette église proche de la dictature militaire, mais il n'a jamais été du côté des Montaneros et des prêtres rouges. Donc il a toujours été comme un bon jésuite d'une certaine façon, un petit peu entre les deux. Il a voulu ouvrir, et là il a apporté un message d'espérance, rouvrir l'église au message évangélique. Mais il est très fidèle au dogme. Je pense que d'emblée, il ne s'est jamais prononcé pour l'ordination des femmes diacres. Il n'a rien engagé profondément de réforme. Il a ouvert des fenêtres, accordé, on va dire, lâché un peu de lest, parce que l'Église était très chargée par les scandales. Voilà, il va laisser ça à son successeur. Tout va dépendre du successeur qui va du prochain pape qui va être élu. Et comme en général la tradition veut qu'après un pape qui a fait beaucoup bouger les lignes, on nomme un pape on va dire dit de transition. C'est pour ça qu'après Jean-Paul II il y a eu Monseigneur Ratzinger, Benoît XVI, mais donc qui était tout à fait inattendu. Mais voilà, donc il va falloir un peu faire le point, savoir comment on va continuer les réformes très importantes, notamment sur l'image synodiale synodale de l'Église. Il ne faut pas oublier qu'il a accordé aux conférences épiscopales nationales une autorité doctrinale, et ça va être très très important. C'est ce qui a fait que beaucoup de cardinaux dits conservateurs, notamment le directeur de la congrégation pour la foi, a grincé les dents, parce que le pape est garant du dogme, et de laisser aux conférences nationales des décisions dogmatiques, enfin des doctrinales, des réformes, des possibilités de réformes, ça peut représenter un danger presque de schisme.
Christiane Racine, vous restez avec nous. J'aime beaucoup cette formule. Finalement, il n'a pas fait aboutir les réformes, il a ouvert des fenêtres. Un mot, déjà des dernières informations, puisqu'il y a quelques minutes, on a appris les raisons du décès du pape François, décédé d'un AVC, précise le Vatican. Un mot aussi des très nombreuses réactions. Il faut en parler parce que toute la journée, elles ont afflué à travers le monde. Donald Trump, le président américain, qui a dit « Repose en paix, pape François, que Dieu le bénisse, ainsi que tous ceux qui l'ont aimé. » Et Donald Trump qui demande eh bien que tous les drapeaux américains soient mis en berne. On peut citer Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui remercie celui qui a prié pour la paix en Ukraine et pour les Ukrainiens. Emmanuel Macron, qui a été l'un des premiers dirigeants à s'exprimer depuis Mayotte, le président français. Mais évidemment, c'est d'abord pour les catholiques du monde entier que l'émotion est très vive ce soir. Près d'1,4 milliard de catholiques, on le rappelle, dans le monde. C'est une nouvelle qui s'est très vite répandue, la mort de François. Alors, on a vécu avec Daniel Valo cette prière qui vient de s'achever, place Saint-Pierre, en hommage à François. Aux quatre coins du monde, les fidèles ont rejoint très rapidement leurs églises pour se recueillir, pour prier pour François. Et on va écouter l'un de ses fidèles à présent, Rosalia, qui est portugaise, qui est en vacances actuellement en France. Et c'est notre reporter Baptiste Coulon qui lui a tendu son micro sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame à Paris.
Il était surtout humble, il aimait pas la richesse. Et il sortait du Vatican les soirs pour aller donner à manger aux pauvres. Pour moi, c'est un grand homme, et qu'il parte un lundi de Pâques, c'est un signe du bon Dieu. Il a tenu jusqu'au bout, et je suis émue, mais en même temps, contente pour lui, parce que là, il est bien là où il est. Il a travaillé beaucoup, beaucoup pour la paix, et maintenant qu'il est parti, les gens ils vont réfléchir vraiment cet homme qu'il était, il gardait dans le cœur.
Et les cloches qui résonnent en même temps.
Ouais, le ciel, il est content pour lui.
Voilà, les cloches de Notre-Dame qui résonnent, témoignage recueilli par Baptiste Coulon du service France de RFI, et cette fidèle Rosalia qui rendait hommage, encore une fois, comme le disait Christiane Rancé, comme le disait Véronique Guémard, à ce pape des plus défavorisés. On approche dans quelques minutes de la fin de cette première partie d'édition spéciale. Restez à l'écoute, parce qu'après il y aura une édition spéciale pendant 30 minutes avec Zéphirin Quadio, le pape et l'Afrique, l'héritage de François sur le continent africain. Mais si on doit se projeter, Véronique Guémard, sur ce qui va se passer dans les prochaines heures, les prochains jours.
Mais écoutez, pour l'instant, c'est une période de vacances qui s'ouvre au Vatican, hein, jusqu'au conclave, jusqu'à l'élection du prochain pape. Il y a plusieurs rites qui vont se succéder. Donc l'annonce de la mort du pape François ce matin par le Camerlingue, hein, le cardinal Camerlingue, qui est Kevin Joseph Farrell, qu'on a entendu tout à l'heure. Ensuite, la mise en bière normalement ce soir, donc à la résidence Sainte-Marthe au Vatican où résidait le pape François. Ensuite, tous les cardinaux du monde sont convoqués à Rome. C'est la première réunion qui va commencer d'ailleurs dès mardi.
Demain.
Voilà, dès demain. Et puis, entre-temps, la dépouille du pape François qui pourrait être transférée à la basilique Saint-Pierre mercredi pour que les fidèles puissent lui rendre hommage avant son enterrement samedi ou lundi prochain, on n'a pas encore la date exacte. Et puis le conclave, donc l'assemblée des cardinaux de moins de 80 ans qui se réunit pour élire le successeur de François, qui doit se tenir 15 jours au moins et 20 jours au plus après la mort du pape.
D'accord, donc c'est dans environ 15 jours, entre 15 et 20 jours.
Entre 15
désormais.
Et 20 jours.
Ok, on suivra ça évidemment de très près sur Radio France Internationale, et nos éditions spéciales se poursuivent. Merci beaucoup Véronique Guémard, présentatrice de l'émission Religion du Monde sur RFI, Christiane Rancé qui est écrivain, auteur de la biographie Un pape parmi les hommes, qui était avec nous également, et Maël Guyot et Olivier Roux qui étaient à la réalisation ce soir. Merci de nous avoir suivis, restez à l'écoute de Radio France Internationale, nos éditions spéciales se poursuivent. Zéphirin Quadio nous a rejoint en studio dans une poignée de secondes, l'héritage de François sur le continent africain, et puis les réactions évidemment en Afrique après le décès du pape à l'âge de 88 ans. Vous saurez tout, ne bougez pas, on revient dans un instant.
Ce lundi sur RFI.
Pourquoi les mathématiques sont universelles ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Regard croisé de deux mathématiciennes engagées dans la transmission et le partage de leur science, mais surtout du plaisir et même de la joie de chercher et de comprendre, comme le disait Galilée, pourquoi le monde est écrit en langage mathématique.
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.